Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Amateurs de chiffres, de statistiques. Vendredi 23 février 2024, ici Alex Bergeon, et bienvenue au deuxième service du Réchaud. Bon vendredi sur les ondes, eh ben samedi et dimanche aussi sur les ondes de CFAQ 88.3 à Sherbrooke et de Chiz 94.3 à Québec, vos radios universitaires préférées. Content de vous retrouver en direct cette semaine pour parler d'actualité. Faisons quelques brèves tout d'abord, parce qu'on ne parlera pas. Quoique. En long et en large de fruits. Avec cet édifiant moment que nous a donné François Legault cette semaine. En utilisant fruits et les fruits pour démontrer que Northvolt, c'est un bon projet malgré l'augmentation de questionnements autour du dit projet. Parce qu'il ne faut pas comparer des pommes, des oranges, des bananes ensemble. Ce n'est pas la même chose. C'était la mince justification qu'avait le gouvernement pour expliquer que dans la chronologie de Northvolt et de l'approbation du projet, ce n'était pas pareil. C'était pas pareil parce que une chronologie du projet en tant que tel, avec évidemment preuve à l'appui, il y avait un premier contact qui s'était fait à l'automne 2022. Un premier contact entre le gouvernement de François Legault et Northvolt pour commencer quelques pourparlers. On apprenait dans les dernières semaines que le 6 février 2023, il y avait une rencontre entre notre vendeur québécois, Pierre Fitzgibbon, et la direction de Northvolt. Réunion qui n'avait pas été déclarée à personne, qui s'était faite un petit peu en catimini, et que justement, cette rencontre, n'étant pas inscrite nulle part, faisait en sorte que c'était un petit peu dans le secret que Fitzgibbon rencontrait Northvolt. Se sont inscrits lobbyistes par la suite, mais la rencontre a quand même eu lieu avant. 22 février, mystérieusement, les règles du BAP, Bureau d'acceptabilité des projets en environnement, les règlements étaient modifiés. Qu'est-ce que cela peut bien annoncer? Donc, dans le même mois, l'année dernière, c'était même anniversaire. Ça fait maintenant un an et un jour, au moment d'enregistrer, 22 février dernier, que le BAP a été changé pour permettre à une compagnie comme Northvolt de pouvoir se construire malgré le fait que des études en environnement disent à un projet immobilier qui veut se construire à peu près dans le même, sur le même terrain, que non, MC2 n'aura pas le droit de construire des logements. Et ça, on arrive une semaine et demie plus tard, le 7 mars 2023. Et c'est finalement deux semaines plus tard, le 21, que le ministère de l'Environnement commence à étudier le projet Northvolt. Et où ça devient intéressant pour l'environnement? On avait parlé du blondeau, le petit oiseau, qui était dans un environnement normalement protégé, mais que Northvolt s'engageait à remettre d'ici les 15 prochaines années le petit lac adjacent pour que le blondeau puisse continuer à survivre malgré tout. Mais c'est que ces raisons environnementales-là qui ont fait annuler le projet immobilier, bien, soudainement, ces arguments-là n'existaient plus pour Northvolt. Parce que, soi-disant, ce n'était pas sur la même partie de terrain que ciblait Northvolt versus le projet domiciliaire. C'est les mêmes terrains, mais soudainement, Northvolt était en terrain correct pour là se construire sans trop aggraver le blondeau. C'est ça, blondeau, je le dis, puis j'ai comme un doute. Mais que finalement, c'est ça, avec Northvolt, c'était correct, mais le projet domiciliaire, comme par hasard, ben lui, c'était pas correct. Et après ça, le moins... ou le plus sérieusement du monde, cette semaine, Pierre Fitzgibbon écrivait une lettre ouverte pour dénoncer les médias qui allaient à l'encontre de Northvolt. Parce que selon lui, il y avait une majorité de Québécois silencieux qui, eux, sont pour Northvolt, mais qui ne le disent pas, et qu'à cause des méchants journalistes qui travaillent contre le gouvernement, qui travaillent contre l'économie québécoise, ben ça faisait en sorte que les gens, de plus en plus, n'aiment pas le projet. Parce qu'évidemment, on dit aux gens « aimez pas ça », ben les gens font « oui, on n'aime pas ça ». C'était aussi facile que ça, selon Pierre Fitzgibbon. Évidemment, on n'est pas dans un climat en ce moment où les médias ont la cote. Fait que, t'sais, de dire que ça prend seulement un ou deux articles dans un journal pour faire en sorte qu'un projet qui va ravager des milieux humides n'a pas d'acceptabilité sociale. C'est assez étiré, c'est assez stretché. C'est de dire que tout est de la faute, encore une fois, des journalistes. C'est un peu facile, Pierre. C'est pas un blondeau, c'est un blongio. G-I-O-S. Tout ça pour dire que la CAQ réussit par eux-mêmes à se mettre des bâtons dans les roues, réussissent par eux-mêmes à mettre un doute sur le projet. Ne serait-ce que parce que, justement, on contourne les règles, on s'arrange pour que ça passe plus rapidement. Parce que, et ça c'est selon certains commentateurs et certains analystes, Northvolt ont eux-mêmes des dates et des quotas à respecter, ont eux-mêmes des échéances, et vu que c'est une compagnie, ils ont aussi des gens à qui ils doivent rendre des comptes. C'est sûr que pour eux, avec un ministre, un super ministre comme Pierre Fitzgibbon qui leur dit « Oh, vous allez l'avoir votre usine, vous allez être correct. » C'est sûr que pour eux, c'est plus avantageux de venir au Québec. Quand en plus on leur dit « Ah non, les trucs d'environnement, on s'en fout, c'est pas grave, on tosse ça, plus d'autres. » En voulant dire, parce que si le BAP avait eu lieu, si vraiment il y avait eu un bureau pour l'acceptabilité du projet qui avait été mis sur pied, ça aurait pris une autre année de plus. Et peut-être qu'on en serait arrivé à la conclusion que ce n'était pas un bon projet. Parce que, justement, il n'y a pas... Oui, l'environnement, mais est-ce que réellement on a autant d'argent que ça à mettre dans un seul projet, dans une seule usine? Qui n'a pas nécessairement de redevances à faire et qui, eux, vont pouvoir mettre un petit collant vert sur leur batterie de char parce que ça a été fait avec de l'hydroélectricité. Hydroélectricité qu'on va manquer d'ailleurs parce que Hydro-Québec sonne l'alarme de leur côté que, ouais, les surplus qu'on avait, finalement, on n'a pas tant que ça. Donc, est-ce qu'on a l'argent des contribuables à mettre là-dedans? Ben non, là, on va dire que c'est les enseignants qui vont coûter trop cher. Oui, ça c'est un bon move, ça, que François Legault a fait aussi cette semaine. Les enseignants vont coûter trop cher. On redonne également 1 milliard et plus dans les poches des Québécois parce que nous, on considère qu'on n'a pas de besoin. Mais quand vient le temps de passer à la caisse, c'est plate. Le prochain budget va être déficitaire au mois de mars. Donc, est-ce que Northvolt... Et si viable que ça, première question. Est-ce qu'on en veut tant que ça de Northvolt? Deuxième question. Est-ce qu'il y a tant de gens que ça qui vont déménager près de Saint-Basile-le-Grand, McMasterville, pour pouvoir travailler dans l'usine? Pénurie de logement. Fait que tu sais, il y a tout ça, mettons. En période de pénurie de logement, tu sais... Il y a tout ça mis bout à bout que tu commences à dire « Ouais, finalement, Northvolt, c'est peut-être pas un si gros projet que ça. » Et pour faire l'enchaînement là-dessus, pour rester dans la thématique financière, le plus sérieusement du monde, Éric Gérard s'est présenté ministre de l'économie. Lui, c'est le ministre des Finances, Fitzgibbon, ministre de l'économie. J'essaie de ne pas les mélanger. Éric Gérard s'est présenté le plus sérieusement du monde devant les médias en disant « Bien, la priorité au prochain budget, c'est évidemment la santé et l'éducation. » Quand la veille ou l'avant-veille, François Legault dit qu'on a décidé au Québec d'investir dans le service public, mais qu'à cause de ça, on va être déficitaire. Donc, encore une fois, c'est pas le toit du stade à 800 millions que le démolir aurait pu en coûter 25, mais qu'avec des estimations, c'était rendu 2 milliards, quand justement, dans le monde, il y a des stades qui se font démolir pour 15 millions. Là, on parle de 2 milliards au Québec parce qu'on est tellement différent de tout le monde. C'est pas Northvolt, c'est pas le remboursement d'impôts qui fait en sorte que les montants diminuent drastiquement dans le budget québécois. Non! C'est parce que les enseignants ont fait la grève puis que vu qu'on leur donne des augmentations de salaire, là... ça devient problématique pour l'économie. Mais de l'autre côté, tu as l'autre qui va quand même dire notre priorité, c'est l'économie. C'est l'éducation. Notre priorité, c'est la santé. Mais on va créer des infrastructures de toutes pièces comme Santé Québec. On cherche un Top Gun qui va gérer la business pour être l'employeur unique. Et ce Top Gun-là va gagner plus d'argent que François Legault lui-même, le premier ministre. Donc, le gérant suprême de la santé qui, au minimum, et ça, on peut le donner à la CAQ, n'est pas nommé par le gouvernement. Donc, c'est un employé, mais c'est pas un sous-ministre de la santé. Donc, techniquement, c'est apolitique, sur papier, mais qui va gagner un salaire plus élevé que le premier ministre. Donc, toutes ces petites dépenses-là, bien, petites dépenses, façon de parler, mais tu sais, ne serait-ce que le remboursement d'impôts, ne serait-ce que justement des projets d'un million, bien, 800 quelques millions pour l'instant, mais avec les dépassements de coûts, puis on le sait bien, ça va monter à un milliard quelques pour le toit du stade, parce qu'on veut tellement avoir Taylor Swift, selon Caroline Proulx, ministre du Tourisme. On veut tellement avoir Taylor Swift au stade à Montréal que de toute façon, avec la construction, ça ira pas avant dans 10 ans, 15 ans, tu sais. Avec tout ce genre de dépenses-là niaiseuses, après ça, on vient de dire, non, non, le problème, c'est les services publics, c'est les enseignants qui vont coûter trop cher. Come on. On a bien beau pas vouloir me comparer des pommes, des bananes, des oranges, parce que les moitiés de terrain spotés ne sont pas les mêmes. Mais un moment donné, l'improvisation commence à faire. De retour au deuxième service, Petit singe de Valence qu'on vient d'entendre en musique. Ça a été présenté cette semaine sur les ondes de Télé-Québec. Ça sera d'ailleurs en reprise ce dimanche 25 février, 14h, rediffusion également lundi minuit. Lundi 26 février, minuit et 23h. Ça s'appelle Adonis. Peut-être que vous l'avez vu l'entrevue, à tout le monde en parle, il y a deux semaines. Le réalisateur Jérémy Battaglia était sur le plateau avec l'un de ses protagonistes, Mathias Quiroz. 23 ans, ce documentaire-là parle de gars qui s'entraînent dans les années 2020. Pourquoi on s'entraîne? Pour être massif. Et c'est tout. C'est pas pour être en santé, c'est pour être massif. C'est ça le but. Très particulier, j'ai envie de dire. Et en même temps, ça permet de comprendre un peu l'espèce de monde dans lequel vivent ces jeunes garçons-là. Parce qu'en plus d'interviewer, c'est ça. Je pense même Mathias, à 23 ans, est dans les plus vieux de la gang. Puisque il y a en face-à-face, one-on-one, il parle avec des jeunes de 15, 16, 17, 18 ans. Pourquoi ils s'entraînent? C'est quoi leur motivation? C'est quoi l'idée? Puis à part être plus gros puis avoir des gros bras, ça part de là. Quel est leur point commun après ça quand on se rend compte de c'est quoi le peut-être problème sous-jacent? Ils ont à peu près tous été intimidés à l'école. Ils sont pas assez grands. Genre, ils mesurent pas 6 pieds, 1, 2, 3. Fait qu'on compense avec des gros bras. Et encore une fois, et ça, c'était dans l'émission d'après qui est Adonis, la discussion avec Marie-Louise Arsenault. Donc, l'émission Dans les médias fait place à la discussion. Et justement, il y a un des entraîneurs là-dedans qui, lui-même est bodybuilder. Il dit, les jeunes aujourd'hui ne s'entraînent pas pour être en forme et en santé. Ils s'entraînent pour être gros, pour être massifs, et ils ne sont pas en santé. En fait, je pense, non, c'est une des analystes qui dit ça. C'est, oui, ils ont l'air en santé, mais est-ce qu'ils le sont vraiment? Bien sûr que non. À même le documentaire, et ça, c'est peut-être celui le plus perturbant, il y a un des jeunes de 18 ans qui est là-dessus. Il prend des produits anabolisants, des produits qu'il achète sur Internet en vente libre, genre de stéroïdes, mais vendus en pilules, puis vendus en comprimés, en poudre, peu importe. Et il tombe malade. Il y a un des produits qu'il prend qui le rend malade. Et il est arrêté pendant 3 semaines. Il était supposé faire une compétition. Évidemment, il ne pourra pas y aller parce qu'il va être 3 semaines à ne pas s'entraîner. Mais il continue. Et ça, c'est, il est dans les images marquantes. Il prend une espèce de petit bol en plastique et il met toutes ces espèces de suppléments, de vitamines, de whatever quoi, de peu importe quoi. Puis il gobe ça comme si c'était des Smarties. Puis il n'a pas 2-3. Oh non, non, il en a 10 certains. Pourquoi? Pour se donner de l'énergie, pour brûler des graisses, pour stimuler telle affaire, puis prendre de la masse musculaire plus rapidement. Mais encore une fois, c'est pas pour être en santé. C'est juste pour avoir des gros bras. Parce que, et là rentre la deuxième partie du documentaire, j'ai envie de dire, parce que c'est de même sur les réseaux sociaux. Et ce compte également en commun tous les petits jeunes qui sont intimidés ou trop maigres en secondaire 4, fait qu'ils se font appeler l'échalote au secondaire, c'est qu'ils regardent des vidéos de fitfluencers, des influenceurs entraîneurs, en tout cas, entraîneurs entre guillemets, qui sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram, sur Snapchat, se font dire par ces gars-là, « Ah, si tu veux devenir plus gros, plus massif, prends telle affaire, commande telle affaire, j'ai un coupon rabais de 30% sur tel produit, achète ça. » Et ce qui était marquant également, c'est qu'il y en avait un là-dedans qui est un genre de remède pour cheval, littéralement, que la dose non nocive pour être humain, c'est genre une mini graine de à peine 20 mg, peu importe, je donne un chiffre au hasard, mais tu sais, c'est genre la dose non fatale pour l'être humain à long terme, c'est genre 20 mg, une fois peut-être. Et ces influenceurs-là sur le web vont dire, prends-en 12 kilos pendant 4 semaines, 1 mois, 6 mois, puis ça va t'aider. Puis après ça, là, hospitalisation, urgence, passe proche de mourir. Ou se retrouve avec des organes vitaux, genre le foie, complètement endommagé, parce que ces produits-là sont néfastes. Surtout en grande quantité et mal recommandé. Parce que littéralement, ce montage-là dans le documentaire, c'est le même médicament qui dit « c'est nocif pour l'être humain » et t'as 3 personnes qui disent « prends ça pendant 6 jours, 2 semaines, 3 mois ». La même chose. C'est pas un médicament humain, c'est un médicament pour cheval. Fait que tu sais, pour que les chevaux courent plus vite, fait que prends ça en tant que toi, être humain. Et où dans cette partie des réseaux sociaux-là, ça déboule trop rapidement. Et ça, les décrypteurs à Radio-Canada l'avaient également expérimenté. C'est que oui, ça commence par des trucs de gym. Des gars qui soulèvent des poids, des gros poids, posent devant le miroir pour montrer leurs gros biceps. Et tranquillement, pas vite, le discours qui vient avec ça, c'est que pour dans la vie, réussir, ça te prend un gros char, une maison, des gros bras, puis une petite femme à mettre dans la maison. Et encore là, peut-être la clé de ce documentaire-là, c'est le jeune de 18 ans qui se ramasse à l'urgence et qui dit le plus sérieusement du monde au réalisateur Jérémy Battaglia que ça y prend une femme qui reste à la maison pour s'en occuper pendant que lui va s'entraîner au gym. Puis qu'elle va s'occuper des enfants à la maison. Ça, c'est ça son aspiration dans la vie. Avoir des gros bras, un char, une maison, puis une femme à mettre dans la maison. Et tout ça, ce discours-là, Oui, évidemment, l'être suprême, c'est Andrew Tate. Mais il y en a plein de dérivés de ce gars-là. Et on a au Québec aussi, c'est ça qui arrive. Fait qu'ils font la version québécoise de ce phénomène-là, qui vont dire, oh « Oui, si tu veux réussir dans la vie, ça te prend ci, ça, ça, et une femme obéissante à la maison. » En 2020, 2021, 2022, 2024. Et ces jeunes-là adhèrent à cette idée-là. Parce qu'ils voient ces gars-là donner l'impression qu'ils ont réussi dans la vie parce qu'ils ont tout ça. Et c'est ça probablement le plus problématique. Outre le fait qu'ils se droguent constamment parce que ça va les aider à être plus gros plus vite. Tu sais, au point qu'ils installent maintenant des poubelles à seringues dans certains gyms. Tellement que c'est rendu « commun », entre guillemets, des gars qui se piquent. Autant que les influences qu'ils ont sur Internet. Tu sais, on a beau rire des influenceurs, mais ça marche pour vrai. Tu sais, à force de regarder des vidéos de « t'es pas assez gros, t'es laite, tu t'entraînes pas assez, va t'entraîner plus, pourquoi tu t'entraînes pas, retourne t'entraîner. T'auras pas de femme si tu t'entraînes pas parce que tu vas être laite. » Tu sais, à entendre ce discours-là continuellement, parce que leur algorithme ne se nourrit que de ça en plus, ben ça fait en sorte que le gars de 18 ans va dire le plus sérieusement du monde, j'ai hâte d'avoir une blonde pour qu'elle s'occupe de ma maison. Ça a l'air fou, mais c'est ça le discours qu'il y a sur Internet en ce moment. Pour rattraper le documentaire, téléquébec.tv, sinon à la télé traditionnelle, dimanche 25 février, 14h, lundi 26, minuit, midi et 23h pour les rediffusions télé. On s'arrête quelques instants, on retourne la suite de ce deuxième service de cette semaine. Vous écoutez CFAQ 88.3 et CHIS 94.3. De retour au deuxième service. Je voulais aller en cinéma, mais là, j'ai pas la bande-annonce en français. C'est tellement dommage pour ce film si particulier qui enflamme le web depuis sa sortie pour un très, très long 2 heures de Madame Web. Film qui se passe dans l'univers de Spider-Man et jusqu'à tout récemment, n'avait pas été clairement annoncé avec lequel Spider-Man on faisait affaire. Finalement, on fait affaire avec, techniquement, le Spider-Man de Tom Holland. Donc, le Spider-Man du MCU, de l'univers Marvel cinématographique. Puisque les événements se passent début 2000... Ce qui fait en sorte que le film, pas le film, mais Spider-Man peut avoir 20 ans rendu, ben 20 quelques ans, rendu en 2024, 25, 26, où est-ce qu'on est rendu dans le Spider-Verse? Quoi en dire? Règle générale, le monde a haï ça pour mourir parce que, justement, c'est un mauvais film. C'est mal écrit, l'intrigue est plus ou moins intéressante. Et surtout, parce qu'on arrive après des Venom, après des Mobius... Morbius, enfin, on s'en fout. Jared Leto encore. Celui-là, il n'est pas intéressant. Il n'est pas utile. Et qui plus est, il n'existera plus de toute façon parce que Sony a les droits sur l'univers de Spider-Man. Donc, pourquoi ça avait été compliqué à ce que justement Tom Holland devienne finalement le Spider-Man de l'univers cinématographique, c'est parce que Sony avait les droits exclusifs sur la franchise Spider-Man. Et ça faisait en sorte qu'il fallait qu'ils s'entendent pour être capable de faire un film. Donc, pour que Sony conserve les droits sur l'univers Spider-Man, il doit faire un film de temps en temps pour justifier le fait qu'il conserve les droits. Et ça fait en sorte que, justement, des Venom, Mobius et Madame Web voient le jour. Et pour les mauvaises raisons, c'est pas bon. Parce que ça pourrait être bon. Mais rapidement, ça devient tellement ridicule et ça devient tellement incohérent qu'on en décroche beaucoup trop rapidement. Bonne annonce.
Les filles, venez, prenez vos affaires. On s'en va. Allez, on recommence. Il y a une semaine, ma vie était une course contre la montre. Je suis là pour vous aider, ok? Afin de sauver ceux dont les heures étaient comptées.
Cassie!
Puis en un instant, tout a basculé.
Allez!
Bon retour dans le monde des vivants.
Je comprends pas ce qui m'arrive. J'ai des visions. Je savais qu'il allait mourir. Je crois que je peux voir l'avenir.
Eh merde, les New Yorkais sont de plus en plus cinglés.
What do you want from me? What do you
want? Eh merde, les New Yorkais sont de plus en plus cinglés.
C'est une urgence, sortez immédiatement! Cet homme veut vous tuer.
Comment?
T'es qui au juste? Qu'est-ce qui se passe? Je peux prédire l'avenir.
Oh!
Pourquoi t'as fait ça?
Ça, elle l'a pas prédit.
C'est pas comme ça que ça fonctionne. J'ai déjà vu cet homme.
Alors c'est qui?
Ezekiel Sims. Il était en Amazonie avec ma mère pendant qu'elle étudiait les araignées. Juste avant qu'elle meure.
Attends, je te reconnais. On vit dans le même immeuble.
T'es l'ambulancière.
Ouais, t'as failli me rouler dessus.
Tu trouves pas ça bizarre, ce lien entre nous quatre?
Honnêtement, c'est la chose la moins bizarre qui me soit arrivée aujourd'hui.
T'as pas idée de ce que ces filles vont devenir.
Je crois qu'il peut prédire l'avenir. Il essaie d'empêcher ce qui va se passer. Julien, baisse-toi! Votre avenir a failli être très différent. Si vous voulez vivre, vous devez me faire confiance. Vous êtes prête? Maintenant!
T'essaies de nous impressionner?
Peut-être un peu.
Donc, en tant que tel, Madame Webb, bon, le personnage était un peu connu par le dessin animé. C'était une vieille dame, justement, qui avait le pouvoir de prédire l'avenir et tout ça. Dans ce cas-ci, bon, pour le personnage, c'est respecté. New York 2003, après avoir survécu à la noyade de l'ambulancière Cassandra Webb, ça découvre un don de clairvoyance, mais genre 5 minutes d'avance. Elle se fait ici la protectrice de 3 adolescentes livrées elles-mêmes par leurs parents. Pourquoi elle? Jamais trop expliqué. Elle se fait aussi, il apparaît que ses filles sont appelées à devenir des super-héroïnes, des Spider-Woman, qui, dans plusieurs années, tueront Ezekiel Sims. Pourquoi lui en particulier? Jamais expliqué. Techniquement, il est un méchant Spider-Man, mais avant que Spider-Man existe. Fait qu'encore là, ça fait plus ou moins de sens. On l'entend dans la bande-annonce, lui travaillait avec la mère de Cassandra. Constance Webb quand elle était en Amazonie où elle est morte. Fait que tu sais, il y a beaucoup d'incohérences, il y a des choses qui se peuvent pas, c'est pas super bien écrit. Et essentiellement, la prémisse, c'est que le méchant veut tuer les trois filles parce qu'il a rêvé qu'il allait se faire tuer par elles un moment donné. Mais ces trois-là n'ont pas encore leur super pouvoir. On ne sait pas comment elles deviennent des Spider-Woman, ni pourquoi. À part le fait qu'ils n'ont pas de parents et que Cassandra devient leur mère adoptive. Il n'y a pas d'après-générique. Fait que c'est vraiment comme un film qui existe pour exister, mais que dans les faits, il n'y aura pas d'impact parce qu'il n'est pas particulièrement bon. Il s'imbriquera à probablement rien. Pourquoi ça a été fait? Pour entretenir Sony, probablement avec sa franchise, mais sinon, en tant que tel, ça ne vaut pas la peine. C'est pas super bien écrit. Peut-être est-ce que le doublage québécois aide au film américain. Souvent, ça arrive que le doublage fait en sorte que le film devient meilleur, parce que j'ai pas tout haï. T'sais, oui, c'est pas bien écrit. Oui, l'histoire est pas cohérente. Il y a des personnages qu'on allume et on comprend que c'est le Spider-Man de Tom Holland, on fait comme « Ah, oh, c'est normal que ce personnage-là ait à peu près 30 ans en 2003 pour qu'il n'aille 50 en 2023. » Fait que tu sais, des petites affaires de même. Et ce qui est drôle, c'est que les personnages normalement de Spider-Man, genre Tante May et Peter Parker, sont pas là, mais mentionnés une fois de temps en temps pour faire comme « Oui, oui, on connaît les autres personnages qui normalement devraient être là, mais qui sont pas là. » Et c'est ça aussi non plus qui fait pas de sens, c'est que le Spider-Man n'existe pas encore. Donc comment on peut avoir un anti-Spider-Man avec un costume presque pareil d'un gars qui, lui, techniquement, a 50 ans? Fait que quand il se fait tuer dans le futur, il est rendu à 70, puis il a l'air de n'avoir 40 avec des cheveux blancs. Fait que, tu sais, il y a beaucoup d'incohérences. C'est pas un archi-mauvais film, mais très content que les mardis de février sont à 5$. Et techniquement, mardi prochain, on est encore en février, donc c'est un excellent film de 5$, mais ne mettez pas 12 là-dessus. Ça n'en vaut pas la peine, clairement. Sinon, on attend que ça passe à nouveau un après-midi, un moment donné. Parce que sinon, au cinéma, c'est cher payé 12$ pour ce film-là. On s'arrête là-dessus. Dernier bloc au retour de cette courte pause. Ici même sur les ondes de CFAQ et sur les ondes de CHIZ. Beat Sexu, qu'on vient d'entendre en musique sur les ondes de CFAQ 80.3 et de CHIZ 94.3. Ça s'était passé la semaine dernière, mais... la semaine dernière, c'était le spécial avec les artisans de Lucie Grizzly Sophie qui prend l'affiche cette fin de semaine. Donc, allez voir ça, film québécois. Entrevue avec les artisans la semaine dernière. Donc, j'ai pas pu parler de ce défi TikTok qui n'en était pas un, mais qui prouve encore une fois que certaines personnes, ou en tout cas passé un certain âge, comme on ne s'intéresse pas aux affaires de jeunes, bien, ça fait en sorte qu'on comprend plus les affaires de jeunes. Donc, on apprenait. La semaine dernière, il y a des commissions scolaires, dont celle de l'énergie en Mauricie, qui ont envoyé un communiqué aux parents comme quoi il y avait un défi TikTok qui encourageait les jeunes à se suicider le 13 février pour recevoir des fleurs le 14 février. Parce que le seul moyen pour les jeunes de recevoir des fleurs le 14 février, c'est de mourir le 13. C'est ce qu'on pouvait apparemment voir dans le défi TikTok. Et le mot défi TikTok vient prendre un sens hyper important là-dedans. Parce que, évidemment, ce communiqué-là envoyé par les services scolaires de l'énergie est dramatique fois 1 million, tellement ils ne savent pas c'est quoi. Parce qu'il y a une différence entre une vidéo sur TikTok et un défi TikTok. Le genre de défi TikTok niaiseux qui existe, c'est manger des Tide Pods, c'est rentrer chez du monde parce que la porte est débarrée puis demander si Maurice est là, c'est se faire à manger dans un parking de centre d'achat ou d'essayer de se faire à cuisiner et à manger dans les rayons du Walmart. C'est le genre de défi TikTok qui existe. Mais dans la vie de tous les jours, il n'existe pas un défi de « suicide-toi le 13 pour avoir des fleurs le 14 ». À la base, c'est une vidéo humoristique, un peu ironique, un peu noire, que le genre d'humour qu'il y a sur les réseaux sociaux en ce moment, donc justement un humour un peu noir, un peu grinçant, de « Ah, je suis tellement célibataire à Saint-Valentin cette année que le seul moyen que je reçoive des fleurs, c'est si je mourrais le 13 ». La vidéo, essentiellement, c'est ça. Mais parce que, et pour vrai, il y a eu une job de téléphone arabe là-dessus, de fausses rumeurs, de oui-dire, de « lui m'a dit que ça », que c'est devenu un défi de se suicider le 13 février. Tellement ça a pris des proportions ridicules. Et que essentiellement cette histoire-là part d'un jeune qui, sur son téléphone, voit passer la vidéo « Ah, je suis tellement seul à Saint-Valentin que nanana », le dit à son professeur, lui entend que professeur qui, en plus, n'a pas le droit d'être sur TikTok parce que les commissions scolaires, quand on a su que TikTok pouvait espionner les téléphones, avait demandé à ses professeurs de retirer l'application des téléphones de ses enseignants, ne peut pas aller vérifier cette vidéo-là. Donc, ça part d'un élève qui a vu une vidéo, d'un prof qui a peut-être mal compris c'était quoi la vidéo, est allé voir la direction en disant « Ouais, il y a des vidéos sur TikTok qui disent que les jeunes doivent mourir le 13, que ça s'est rendu à la commission scolaire et qu'un communiqué sort » pour dire aux parents, là, il y a des jeunes qui vont peut-être se suicider la veille de la Saint-Valentin. Et tout ça aurait pu être réglé si, au minimum, un employé de la commission scolaire défiait le règlement d'aller voir sur TikTok si réellement il y avait une vidéo de gens qui existait. Parce que même, encore une fois, les décrypteurs à Radio-Canada ont fait des recherches pour essayer de trouver le défi TikTok, et tout ce qu'ils ont trouvé, c'est cette vidéo-là d'un gars il y a 4 ans qui faisait une vidéo de « Je suis tellement seul à Saint-Valentin cette année, ça me prend pour avoir des fleurs. » Tu sais, il y avait, c'était même pas une vidéo récente, et ce gag-là, cette blague-là, a de toute façon été reprise depuis. Pour l'avoir vu moi-même passer sur Instagram. Mais tu sais, tu comprends, quand tu es un jeune, que c'est juste une blague. Le gars ne s'est pas réellement suicidé la veille de la Saint-Valentin, il y a 4 ans, dans le but de recevoir des fleurs à son enterrement le lendemain. C'est une exagération, c'est une métaphore, c'est un... Nommez les figures de style que vous voulez. Tu sais, justement, c'était dans le but de faire un gag et c'est le genre d'humour qu'il y a sur les réseaux sociaux en ce moment. Mais parce que, justement, cette commission scolaire-là n'avait même pas accès au contenu original en question, tu sais, n'avait même pas accès à la vidéo que le jeune avait vue dans sa classe ou en tout cas à récréation. On va lui donner le bénéfice du doute qu'il n'utilisait pas son cellulaire en cours. Ben, tout ça aurait pu être évité, mais on s'est dit à la place, au moins on a mis les numéros ressources. Si réellement il y a des jeunes qui sont en difficulté, ben au moins ils ont les numéros 1-866 j'appelle ou tel jeune. Oui, mais vous avez quand même alerté des parents en disant que des jeunes vont se suicider le 13 février. Quand c'est complètement faux. Ce n'est pas ça. T'sais, au point que, justement, il y a certains journalistes qui sont allés voir des jeunes en fin de journée, ces journées-là, puis ça a plus inquiété des parents que prévenu la discussion. Parce que, justement, ça a été mal interprété et ça a été monté en épingle comme étant un fléau, quand, dans les faits, c'était une vidéo humoristique. Bon, là, pour certains, ça peut heurter, mais, tu sais, humoristique, il y a 4 ans, qui a été mal interprété 4 ans plus tard et qui a fait capoter 2-3 commissions scolaires. Comme quoi, la mésinformation peut être aussi dommageable qu'autre chose. Et c'est là que ça se termine pour cette semaine. On se dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Salut.